C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce 20e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, nous partons aux États-Unis. Le feu et la fureur, voilà le titre du livre Enquête de Michael Wolff, sorti la semaine dernière aux États-Unis, déjà en tête des ventes sur Amazon. Ce livre relate les coulisses de l'accession au pouvoir et des premiers mois du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche, un livre que le président américain a tenté en vain de faire interdire. On parle justement de ce livre et de l'impact que ce livre va causer à Donald Trump dans quelques instants avec l'universitaire et spécialiste des États-Unis, Nicolas Gachon. Nous partirons également au Royaume-Uni avec Alexander Seale, puisqu'en pleine période de vœux, le remaniement ministériel auquel Theresa May a commencé de procéder lundi 8 janvier devait sonner comme l'annonce d'un renouveau. Après son échec électoral de juin et après ses reculades face à Bruxelles sur le Brexit, la première ministre britannique devait reprendre la barre et préciser le cap. Mais prisonnière des divisions des conservateurs et affaiblie par la perte de sa majorité parlementaire, elle n'a fait que rafistoler une équipe toujours coupé en deux. Nous serons également avec Stanislas Mirocha autour du salon de Las Vegas et de la 52e édition de ce salon des innovations technologiques en tout genre qui a débuté donc ce mercredi 10 janvier à Las Vegas. La France y est d'ailleurs très bien représentée et avec Stanislas nous parlerons voitures autonomes, intelligence artificielle, téléviseur. Mais pas que, on en parlera donc en deuxième partie d'émission. Et puis cette semaine, Franck Payanaf, notre reporter, est parti à la station de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Impression avec lui à venir, ce sera pour la fin de l'émission. Mais avant toute chose, nous commençons donc cette émission par les brèves de la semaine. Ça commence juste après les jingles. Bienvenue à tous, 20e numéro 2, c'est l'info, ça commence tout de suite. Et dans l'actualité, cette semaine tout d'abord, la Chine, Emmanuel Macron et Xi Jinping ont annoncé mardi vouloir resserrer les liens entre la France et la Chine face aux grands défis mondiaux. Côté économique, Areva et la filière bovine française ont de quoi sourire. Les précisions justement à ce sujet de Ludovic Marin, il était envoyé spécial pour la chaîne France 24.
Parmi tous les dossiers mis sur la table par le président Emmanuel Macron et Xi Jinping, il faut retenir deux annonces très concrètes. Vous l'avez évoqué, d'abord le jackpot pour Areva, le géant du nucléaire français va donc construire en Chine une usine de retraitement des déchets nucléaires, la première de ce genre en Chine. Montant du contrat, 10 milliards d'euros, c'est colossal et c'est l'épilogue pour Areva en Chine d'un dossier vieux de 10 ans avec ce chèque, avec ce contrat, l'horizon du groupe se débouche et cela va sensiblement améliorer la santé financière d'Areva. Autre débouché obtenu par Emmanuel Macron, et il s'en est d'ailleurs félicité, c'est la levée de l'embargo en Chine sur le bœuf français, un embargo qui datait depuis 2001. Pékin interdisait l'importation de bœuf français pour des raisons sanitaires depuis le scandale de la vache folle. Ce ne sera bientôt plus le cas et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les éleveurs français. Voilà pour le concret, en tout une cinquantaine de contrats ont été signés à la fois dans le domaine du sport, de la culture, de l'éducation mais aussi du tourisme.
Oui, dans le domaine du tourisme, du sport, de l'éducation mais également dans le domaine aéronautique. Et oui, la Chine a passé commande de 184 Airbus A320 pour 13 compagnies aériennes et pour une livraison 2019-2020 au prix catalogue. C'est ce qu'a annoncé mercredi Emmanuel Macron.
Et donc qu'il s'agisse des confirmations de commandes sur les 184 A320, c'est quelque chose qui sera totalement finalisé sous peu mais qui m'a été confirmé par le président. Et nous avons aussi des ambitions sur les moyens gros porteurs, je pense à 350, à 380 dans les semaines et les mois qui viennent.
Ouais, l'actualité cette semaine, c'est également la sécurité routière. La France s'est divisée cette semaine autour des routes secondaires et de savoir s'il fallait abaisser ou non la vitesse de 90 à 80 km/h. En tout cas, Édouard Philippe, le Premier ministre, a de son côté tranché.
Nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Dans l'ensemble, les experts évaluent que cette mesure peut permettre de sauver chaque jour une nouvelle vie, soit entre 350 et 400 chaque année. La mesure que nous venons de décider s'appliquera dès le 1er juillet 2018.
Voilà donc, hein, vous l'avez compris, Édouard Philippe, déterminé à faire passer cette mesure. Le Premier ministre qui affirme également que cette limitation est sans lien avec une quelconque motivation financière. Il a aussi annoncé la création d'un fonds d'investissement pour la modernisation des structures sanitaires et médico-sociales, un fonds doté de l'intégralité des recettes supplémentaires générées par les limitations à 80 km/h. En tout cas, est-ce que ces limitations à 80 km/h seront porteuses permettront de limiter le nombre de morts sur les routes? Chacun se fera évidemment son avis, conducteur, pas conducteur. Il est difficile d'arriver à trancher. En tout cas, n'hésitez pas, vous, auditeurs de C'est l'info, à réagir à cela. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag C'est l'info, mais également nous appeler au 06 73 12 05 29 et vous nous laissez un message. Ce message passera à l'antenne la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous voulez réagir sur tout autre sujet, c'est également possible. 06 73 12 05 29, vous appelez donc le répondeur, c'est l'info. Pour continuer donc autour des annonces d'Edouard Philippe dans ses brèves de la semaine, Édouard Philippe a également annoncé le développement d'éthylotests anti-démarrage. Il a en effet annoncé que toute personne dont le permis aura été retiré deux fois pour conduite en état alcoolique devra installer dans son véhicule un EAD. Ces éthylotests donc anti-démarrage qu'utilisent aujourd'hui par exemple les chauffeurs de bus. Il a également annoncé que les conducteurs contrôlés avec plus de 0,8 g d'alcool par litre de sang dont le permis a été suspendu une fois pourront conduire le temps de cette suspension avec un véhicule équipé d'un EAD. Le permis d'un conducteur sera également retenu lorsqu'il tient son téléphone en main et commet en même temps une infraction menaçant la sécurité d'autrui. Exemple tout simple, hein, vous êtes donc au téléphone et vous grillez un stop. Votre permis vous sera alors retiré dans l'immédiateté pour une durée pour l'instant non définie. En tout cas, voilà. On a compris que cette semaine, Édouard Philippe était donc prêt à se mobiliser pour faire baisser le nombre de morts. Édouard Philippe, qui, à l'instar d'Emmanuel Macron qui est en Chine, avait donc ce genre de problème à gérer cette semaine. Alors, on n'en a pas du tout parlé hein, cette semaine dans les médias traditionnels, mais pourtant, c'est important de le souligner, la Tunisie est à nouveau secouée par des émeutes alors qu'on approche le 7e anniversaire de la chute de la dictature de Ben Ali et aussi le début du printemps arabe. Depuis lundi, des manifestations contre l'austérité ont en effet éclaté à travers tout le pays. La hausse de la TVA, les nouvelles taxes apparues depuis le 1er janvier 2018 sur le carburant, les cartes téléphoniques, les hôtels ou encore les fruits et légumes, fut-elle donc de trop, une inflation de 6% par rapport à l'an dernier en Tunisie et avec la transition économique qui devait s'accompagner, l'avènement de la démocratie qui n'a toujours pas eu lieu, le chômage demeure toujours élevé, hein. 6% d'inflation, 12% de chômeurs. Avec les attentats de 2015, la Tunisie a encaissé un choc externe qui a annihilé la reprise dont le pays aurait pu bénéficier. Et l'État a également dû augmenter ses dépenses de sécurité. Et depuis 2011, c'est souvent la seule réponse apportée aux malheureuses poussées de fièvre sociale. Également, en bref, dans l'actualité cette semaine, le Canada se prépare à la fin de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. C'est ce qu'a laissé entendre mercredi le gouvernement canadien après des rumeurs annonçant le retrait unilatéral des États-Unis. Les négociations doivent reprendre à la fin du mois. En France, deux ONG portent plainte contre le géant sud-coréen de l'électronique Samsung, qui est accusé de violer les droits des salariés dans ses usines de Chine et de Corée du Sud, alors qu'il se présente sur son site comme une des entreprises les plus éthiques au monde. Sherpa et Peuple Solidaire, dans le même genre, ont déposé une plainte au parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, espérant au moins l'ouverture d'une enquête. Leur précédente tentative avait échoué. Et puis le Bitcoin et les crypto-monnaies, encore une fois, on peut en parler cette semaine. Après avoir interdit les plateformes d'échange de la monnaie cryptée, Pékin, c'est-à-dire la Chine, accentue son offensive en programmant la fermeture progressive des parcs informatiques où la monnaie digitale est produite et sécurisée par l'action de milliers d'ordinateurs chargés de ce qu'on appelle le minage dans le jargon de cette monnaie, cette crypto-monnaie, monnaie technologique. Cela pourrait porter un coup au Bitcoin car cette activité est largement concentrée en Chine, à moins que les mineurs se redéploient dans d'autres pays plus tolérants. Il sera donc intéressant de voir le cours du Bitcoin dans les prochaines semaine. Dans quelques instants sur C'est l'info, nous parlerons de Theresa May qui est affaiblie et qui a donc décidé de remanier depuis le mois de décembre dernier au compte-gouttes, de jour en jour, au fil d'entretien. Elle a décidé de remanier son gouvernement. On en parlera avec Alexander Seale, qui sera avec nous en duplex depuis Londres comme chaque semaine. Mais avant cela, Donald Trump, le feu et la fureur, c'est le titre du livre Enquête de Michael Wolff, donc, qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Que vaut réellement ce livre? Quelles sont les vertus de ce livre? On en parle dans quelques secondes avec Nicolas Gachon. Il est universitaire historien spécialiste des États-Unis. Restez connectés sur C'est l'info.
C'est l'info, l'invité de la semaine.
Le feu et la fureur. Voilà le titre du livre Enquête de Michael Wolff, sorti la semaine dernière aux États-Unis et déjà en tête des ventes sur Amazon. On va en parler avec Nicolas Gachon. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes universitaire, consultant et spécialiste des États-Unis. Alors Nicolas Gachon, ce livre, il relate les coulisses de l'accession au pouvoir et des premiers mois de mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un livre que le président américain a tenté en vain de faire interdire. Ce livre, donc justement Fire and Fury, a provoqué la colère de Donald Trump. Peut-il avoir un impact politique durable et non seulement être pourvoyeur, alors on va en parler, d'informations croustillantes?
Alors, est-ce qu'il aura un impact politique durable? Il est un petit peu tôt pour le dire. Sans doute qu'il a déjà un impact politique, mais qui n'est peut-être pas celui qu'on attend. À mon avis, il faut bien voir que c'est pour l'instant l'exploitation très commerciale donc d'une problématique politique. C'est un ouvrage dont le contenu n'est pas véritablement inédit. La plupart des révélations ont été assez largement connues. Ce qui est très frappant, c'est que la diffusion a été soit aussi médiatisée, qu'il y ait une telle opération promotionnelle, et que la parole de Steve Bannon, qui est un très très proche de Donald Trump, soit impliqué. Alors, il va falloir essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et à mon avis, en tirant les fils de cette pelote un petit peu compliquée, on va voir dans les semaines qui viennent que vraisemblablement, il y a une problématique politique beaucoup plus complexe pour Trump que ce qu'on imagine pour le moment, c'est-à-dire des tensions avec son ancien conseiller Steve Bannon.
Alors, avant de rentrer effectivement dans ce que dit, dans ce que raconte réellement le livre, qui est cet auteur, Michael Wolff? Et surtout, comment a-t-il fait pour avoir l'ensemble de ces informations?
Alors, on ne le sait pas vraiment. On sait qui est Michael Wolff. C'est un journaliste assez sulfureux qui fait partie de la mouvance conservatrice, qui est l'auteur d'une biographie de Rupert Murdoch, qui est le propriétaire de Fox News, qui a eu longtemps maille à partir pour des questions de déontologie journalistique, avec notamment le New York Times. Donc, en termes politiques, ça n'est pas le grand amour, visiblement. Et on voit bien que depuis que la publication a eu lieu, que l'incident médiatico-politique ou politico-médiatique a eu lieu, on voit bien que Michael Wolff court les plateaux de télévision et qu'il adopte un ton qui est quasiment aussi sulfureux que celui de Bannon lui-même ou de Trump lui-même. Voilà, donc il a eu accès effectivement à la Maison Blanche et on ne sait pas exactement comment. Lui-même a reconnu sur un plateau de télévision qu'il a eu accès à la Maison Blanche en mentant, en prétextant un certain nombre de choses, et Trump a démenti catégoriquement lui avoir donné accès à la Maison Blanche. Donc on pense bien qu'il a eu accès donc par l'entourage de Trump, par l'entourage de Steve Bannon, mais c'est une affaire qui est un petit peu dérangeante, surtout aux États-Unis où la façon dont les choses, où les sources sont acquises, enfin, c'est important en France aussi, mais on beaucoup de fois et on ne sait pas très exactement quel a été son accès à la Maison Blanche.
Ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir ce genre de fuite. Alors le livre, il commence par souligner la surprise de Trump, mais pas uniquement, hein, de toute son équipe devant la victoire à l'élection présidentielle le 8 novembre 2016. Et le soir même, lorsqu'il comprend qu'il vient d'être élu, Donald Trump est frappé de stupeur. Sa femme, Melania Trump, elle, fond en larmes des larmes qui ne sont visiblement pas des larmes de joie. Hein.
Non. Alors, peut-être que cet événement a été aussi, je ne le sais pas, hein, je n'y ai pas assisté, mais c'est tout à fait plausible. Écoutez, la presse, le monde entier l'a constaté. Rappelez-vous, le lendemain de la victoire ou le surlendemain de la victoire de Trump en novembre 2016, lorsqu'il est reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche par Barack Obama, les journalistes, la presse du monde entier a noté que Trump avait l'air prostré. Et visiblement, le candidat Trump, qui était assis, adossé à une ligne extrêmement populiste, ne pensait vraiment pas être. Donc effectivement, ça a dû arriver comme un choc. Il a dû mesurer donc la chape de plomb qui lui tombait sur les épaules. Cela étant, au-delà de ça, après donc la posture de son épouse sont des choses qui sont donc exploitées dans l'ouvrage, mais on ne saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est que la surprise de Trump face à son élection est très 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 possible.
Ouais. Dans le livre, on apprend également beaucoup, hein, Nicolas Galchon, sur le fonctionnement de la Maison Blanche, mais aussi sur le rôle crucial de Jared Kushner. C'est l'homme marié à Ivanka Trump, la fille de Donald Trump. Effectivement, le gendre de Donald Trump semble jouer un rôle prédominant dans toute l'influence. Donc, il semble effectivement avoir énormément d'influence sur Donald Trump.
Oui, et c'est une épine dans le pied de Donald Trump, et c'est une épine incontournable puisque c'est lui-même qui s'inflige en fin de compte. Si vous voulez, vous avez une sorte de gendre conseiller, vous avez sa fille à la Maison Blanche, et là, on est dans une position qui confine au népotisme. Et Donald Trump a toujours été en porte-à-faux avec Steve Bannon sur ce sujet-là. Steve Bannon déteste Jared Kushner. Et n'apprécie pas du tout le positionnement d'Ivanka Trump à la Maison Blanche. Bannon s'est ému de certaines photos d'Ivanka Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche, ou dans le fait que durant un G20, Trump s'absente d'une session et que pendant son absence, Ivanka Trump, sa fille, donc, prenne sa place et donc se retrouve à la table des dirigeants de ce monde. Donc, peut-être une petite part de jalousie, hein. Il faut savoir que Bannon a été qualifié par l'entourage les conseillers à la Maison Blanche de sorte de Rasputin. Donc il y a toujours eu des tensions entre Kushner et Steve Bannon, et ça continue. Donc aujourd'hui, donc Steve Bannon n'est plus là, mais les tensions se poursuivent, notamment avec Rex Tillerson, qui est le secrétaire d'État, qui est le ministre des Affaires étrangères, donc qu'on dit perpétuellement partant, mais qui est dans une position extraordinairement difficile, puisque Donald Trump a confié à Jared Kushner une partie du portefeuille, en fin de compte, des très très grands dossiers, notamment le Moyen-Orient, notamment la question de Jérusalem, à Jared Kushner. Donc c'est très compliqué parce que c'était un candidat qui s'était présenté sur une rhétorique anti-élite, anti-marécage, puisqu'il disait qu'il avait asséché les marécages donc à Washington. Le fait d'importer sa famille jusqu'à l'intérieur de la Maison Blanche pose quand même un certain nombre de problèmes éthiques et déontologiques, et c'est une tension qui avait toujours été existante entre Steve Bannon et Donald Trump. Donc c'est pas très étonnant que ça se retrouve dans l'ouvrage.
Oui, alors justement, vous évoquiez Ivanka Trump qui prend la place de papa pendant les réunions lorsque celui-ci s'absente. On peut parler d'une ambition présidentielle, ou c'est vraiment parce que effectivement papa est à la Maison Blanche et donc j'en profite?
Oh, je ne pense pas qu'il y ait d'ambition présidentielle pour le moment. Je pense que c'est une jeune femme qui est assez brillante, qui est beaucoup plus mainstream, entre guillemets, donc qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus présentable, si vous voulez, que son père. Et son père a une très, très grande confiance en elle. Voilà. Donc, à ce jour, il n'est pas véritablement question, et personne ne parle vraiment, et personne ne songerait à penser l'ambition présidentielle d'Ivanka Trump. Et puis, elle commet un certain nombre de faux pas Il y a eu un discours d'Oprah Winfrey dimanche soir au Golden Globe Awards où donc on a commencé, la presse commence à frémir, on se demande si Oprah Winfrey va endosser le rôle de candidate démocrate à la présidentielle. Immédiatement, Ivanka Trump a tweeté pour essayer de récupérer l'événement, la logique Me Too, le combat des femmes, du féminisme, et immédiatement il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux puisqu'on reproche à Ivanka Trump, donc justement en tant que jeune femme, de n'avoir jamais pris position contre les propos de son père à l'encontre des femmes. Donc Ivanka Trump, pour l'instant, à mon avis, se crée un costume qui sera très très difficile à porter dans la perspective d'une éventuelle présidentielle.
Oui, alors justement, en tout cas, ce qui ressort de ce livre, c'est que la Maison-Blanche est aujourd'hui partagée et divisée entre deux camps, les républicains institutionnels, les nationalistes et le camp familial vu comme plus progressiste. C'est assez intéressant de voir qu'effectivement autour de Donald Trump, eh bien deux entités très divergentes tournent autour de l'homme président des États-Unis.
Et il est actuellement pris en étau. À mon avis, la perspective d'interprétation, elle est à ce niveau-là. Trump est en ce moment littéralement coincé, pour parler de manière familière, entre coincé, comme vous le dites, donc le Parti républicain. Et le Parti républicain est en train de dire déjà, d'annoncer que s'il perd les élections de mi-mandat en novembre 2018, il pourrait se débarrasser de Trump. Et de l'autre côté, vous avez cette droite conservatrice très dure qui était incarnée par Steve Bannon et qui visiblement a quand même porté un coup à Donald Trump. Donc il est pris entre les deux. Et on voit bien que ces derniers jours, Trump émet des signaux qui sont un petit peu inquiétants. On voit bien qu'il vacille. Il a tenu des propos assez incohérents aujourd'hui, en tout cas contradictoires aujourd'hui sur l'immigration. Il a réagi très vivement contre la cour de district du 9e circuit qui a invalidé donc une de ses décisions. On sent que le président est actuellement sous une grande tension et il a aussi changer de position, changer de fusil d'épaule sur l'accord de Paris, oui, ce qui est très surprenant.
Effectivement, on va en parler dans quelques instants. Juste pour terminer effectivement sur ce livre, Nicolas Gachon, on y apprend beaucoup de choses également sur la Russie. Vous le savez, l'entourage du président est au centre d'une enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion avec la Russie. Stephen Bannon accuse donc Donald Trump de trahison pour avoir rencontré des personnalités russes en 2016. Est-ce que les informations qui sont au sein de ce livre et qui sont compromettantes pour Donald Trump, pourraient-ils faire le bonheur du procureur de Robert Mueller ?
Ça fait déjà un petit peu le bonheur du procureur Mueller, puisqu'il a déjà indiqué, hier ou avant-hier, qu'il allait demander à rencontrer Trump. Donc je pense que lui-même, en tant que procureur, n'a sans doute pas appris grand-chose, mais le fait que ça soit diffusé dans la presse et de cette manière-là va contribuer à renforcer les enquêtes. Celle de Robert Mueller, du procureur spécial, mais aussi les trois enquêtes du Congrès, des commissions du Congrès qui ont lieu actuellement. Les enquêtes n'aboutissaient pas, donc il y avait beaucoup de résistance de la Maison-Blanche, elles étaient fractionnées, morcelées, et là, soudain, on apprend que Mueller va demander à interroger Trump, et je ne sais pas si vous l'avez observé, la sénatrice Dianne Feinstein, donc, qui est dans une des commissions d'enquête du Sénat, a divulgué sur Internet donc des sources qui sont confidentielles, qui étaient bloquées par donc la majorité républicaine qui contrôle cette commission d'enquête. Donc on a aussi une pression au niveau de l'enquête, ça va crédibiliser un peu plus l'enquête et on va sans doute voir dans les semaines et mois qui viennent, à mon avis, un positionnement un peu plus agressif de Robert.
Oui. Pour en revenir effectivement à Donald Trump, vous le disiez, il a affirmé mercredi 10 janvier que les États-Unis pourraient en théorie revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Néanmoins, le président américain ne donne aucun signe concret montrant qu'il entend aller dans cette direction. Il rappelle simplement que l'accord de Paris, tel que nous l'avons signé, pour le citer, était très injuste pour les États-Unis. Cette intervention peut-elle rassurer l'ensemble des signataires de l'accord de Paris ?
Je pense que cette intervention n'a de quoi rassurer aucun signataire de l'accord de Paris. Pour moi, c'est simplement de la rhétorique politique. Trump est en grande difficulté. Et ça ressemble plus à une bouteille à la mer pour essayer de corriger un petit peu donc l'image des États-Unis. On voit bien que Trump vacille un petit peu, il est déstabilisé. Et cet accord de Paris était très symptomatique puisque, rappelons-nous que les États-Unis sont le seul pays à ne pas en faire partie. Et donc les États-Unis sont de plus en plus isolés. Et Trump, en ce moment, a besoin, à mon avis, hein, d'envoyer des signaux un petit peu plus rassurants qui vont lui permettre donc de renforcer son statut politique entre les deux axes dont on parlait, entre un parti républicain qui pense se débarrasser de lui s'il perd les élections de mi-mandat et une droite dure qui, visiblement, à travers les propos de Bannon et la séquence qui vient de s'écouler, est en train d'essayer de modifier son image politique. Donc, c'est cette question d'accord de Paris. Écoutez, rien n'a changé sur le fond. Trump vous dit qu'il n'est pas inconcevable que les États-Unis retournent dans l'accord de Paris, soit il ajoute l'accord de Paris n'était pas juste pour les États-Unis. Effectivement, donc, prendre des décisions favorables à l'écologie est politiquement et souvent économiquement difficile. Est-ce que les paramètres ont changé depuis hier ou avant-hier? Non. Donc, visiblement, c'est une parole qui est assez creuse.
Et sur l'Iran, alors on le voit, Nicolas Gachon, Téhéran, l'Union européenne font bloc face à Donald Trump qui menace là aussi de dénoncer cet accord signé en 2015. Quel avenir justement pour le nucléaire iranien selon vous? Est-ce que Donald Trump va réellement agir comme il l'a promis durant sa campagne?
Je pense que la même chose que ce qui se passe avec l'accord de Paris est susceptible de se passer. Peut-être que Trump va mettre un petit peu la pédale douce. On est dans une problématique qui est connue maintenant avec Trump, c'est-à-dire qu'il a vendu de l'isolationnisme, il a vendu « Make America Great Again », il a vendu « America First », il a promis aux États-Unis qu'il serait le président des États-Unis et pas des autres pays du monde, et donc il substitue partout où il le peut une posture très isolationniste à une posture multilatérale. Donc on a eu un discours qui a évolué déjà. Hein. Dans les premiers temps, il disait qu'il allait lui-même mettre fin à l'accord sur le nucléaire iranien, en oubliant que c'est un accord qui n'impliquait pas seulement les États-Unis, qu'il ne pourrait pas prendre tout seul la décision. Donc je ne sais plus trop quoi vous dire sur le dossier iranien. Là aussi, à mon avis, dans les semaines qui viennent, ça risque de bouger un petit peu. Mike Pence, le vice-président, va se rendre au Moyen-Orient d'ici la fin du mois, comme il l'avait promis. C'est un voyage qui avait été repoussé donc, en décembre, après la décision de Jérusalem comme capitale d'Israël, et à mon avis il y aura un petit peu de, sans doute un peu de nouveau donc après le déplacement de Mike Pence d'ici la fin du mois.
Oui, alors pendant ce temps, effectivement, l'électorat, les 36-38% de l'électorat de Donald Trump aux États-Unis tient, et visiblement ses actions semblent satisfaire l'électorat de Donald Trump.
Pour l'instant, pour cette base-là, oui, il a été élu pour être non-présidentiel, et non-présidentiel, il est. Et cette base lui a, pour l'instant, tout pardonné. Il a tenu des propos diffamants sur les femmes pendant la campagne électorale, il s'est moqué d'un journaliste handicapé, il a insulté la totalité de ses adversaires, et néanmoins, il a été élu président des États-Unis. Donc sa base ne bouge pas. Je pense que le gros problème de Trump, qu'il n'a pas mesuré et qu'il va devoir affronter ces prochaines semaines, c'est qu'il existe, à mon avis, une élite à droite, une élite de la droite conservatrice qui est en train de bouger, qui est en train d'être gênée par l'instrument politique que représente Donald Trump et qui est en train de changer son fusil d'épaule. C'est pour ça qu'il y a eu la tension avec Steve Bannon, c'est pour ça aussi que Steve Bannon donc, a été évacué de la direction de États-Unis. Donc, je pense que la droite conservatrice, il y a une élite qui est en train de modifier donc l'image de, peut-être pas de l'alt-right, mais en tout cas de la droite très dure, et Trump risque fort d'en faire des frais. Voilà, c'est à mon avis l'enjeu pour ces prochaines semaines et ces prochains mois.
Et bien voilà, nous aurons effectivement l'occasion d'en reparler avec vous, Nicolas Gachon. Le feu et la fureur, hein, Trump à la Maison Blanche, sera d'ailleurs publié et traduit en français. Il sortira le 22 février chez Robert Laffont. 80 000 exemplaires sont tout de même prévus. Merci beaucoup, Nicolas Gachon, d'avoir accepté.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Notre invitation. Et bien, je vous invite à suivre le Twitter de Nicolas Gachon pour avoir en direct l'analyse de Nicolas Gachon sur les États-Unis. À très vite. We'll be right back.
ici Londres.
Alexander Seal, bonjour.
Bonjour Martin.
Ici Londres avec vous, donc comme chaque semaine, toute l'actualité, mais vue de Londres et surtout de l'actualité britannique comme on l'aime. On va parler du remaniement de Theresa May, des conservateurs confrontés à des dissensions internes sur le Brexit, fragilisés par la perte en juin 2017 de sa majorité absolue au Parlement. La première ministre britannique Theresa May remanie son gouvernement dans l'espoir de trouver un nouveau souffle, mais les couacs se multiplient, on va en parler, rendant la tâche pénible. Theresa May a donc procédé, Alexander, à un remaniement gouvernemental en début de semaine. Quelles sont les grandes lignes de ce remaniement ?
Alors, concernant ce remaniement, il y a peu de changements. Les ministres importants comme Boris Johnson, David Davis, Amber Rudd ou Philip Hammond ont gardé leur place. Donc, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, David Davis, le ministre des Brexit, par exemple, ils ont gardé leur poste. Theresa May, elle a voulu donner un nouveau souffle à son gouvernement, qui était, selon la presse, un gouvernement de chaos, après la démission de plusieurs ministres ces dernières semaines, on va en parler tout à l'heure. Mais il aura fallu à la Première ministre toute une journée d'entretien laborieux pour finalement annoncer que la plupart de ces poids lourds de son gouvernement restaient en place. Donc il n'y a pas eu de vrai changement. Et certains ministres ne voulaient pas changer de portefeuille. C'était le cas de Jeremy Hunt, l'actuel ministre de la Santé, et il s'est fait confier, il est maintenant en charge des affaires sociales et de la santé en même temps. Donc ce jeu des chaises médicales, en tout cas, a débuté par une gaffe sur Twitter et toute la presse a parlé d'un remaniement en chaos.
Et alors justement, en matière de communication, on a vu que Theresa May a souhaité effectuer ce remaniement au compte-gouttes en annonçant au fil d'entretien, ça fait un mois en fait qu'elle remanie son gouvernement, des changements. Pourquoi adopter une telle stratégie ?
D'abord parce que Theresa May, elle a eu une année 2017 très compliquée après des élections législatives ratées, des négociations sur le Brexit qui étaient très tendues et compliquées, des démissions de ministres et des critiques après les attentats et l'incendie de la tour Grenfell en juin dernier. Donc je crois qu'elle voulait démontrer qu'au début de la nouvelle année, elle pourrait peut-être prendre tout en main avec un peu plus d'autorité, on peut dire. Mais rien n'a été cela.
Rien ne s'est passé comme prévu.
Oui, exactement, parce que tous les ministres ne voulaient pas partir, donc Theresa May n'avait pas d'autorité, donc elle était un peu faible, c'était une opération de faiblesse, contrairement à cette opération d'autorité qu'elle a voulu démontrer en fait.
Oui, et alors quel est désormais l'objectif du principal parti conservateur de Theresa May, son objectif vis-à-vis de ce remaniement, redorer son image, montrer que le parti est toujours là?
Donc oui, exactement. Donc elle veut d'abord rajeunir son gouvernement et le diversifier en tout cas. Elle veut que ce soit paritaire aussi. Et donc ce changement est censé de donner peut-être un nouveau souffle au gouvernement ce début d'année, avant la prochaine phase de négociation du Brexit avec Bruxelles en janvier. Et comme son parti a été très critiqué ces derniers temps, elle voulait peut-être rafraîchir l'image des conservateurs.
Oui, alors ainsi, pour que les choses soient bien claires, Alexander, quelles sont du coup les grandes lignes de ce remaniement ? Qui, Theresa May, a-t-elle changé, fait démissionner ? Par qui a-t-elle remplacé ces personnes ?
Donc, par exemple, il y avait son vice-premier ministre, Damien Green, qui a dû démissionner parce que il a dû démissionner à cause des gaffes, en fait, parce qu'il a reconnu avoir menti au sujet d'images pornographiques sur son ordinateur au Parlement de Westminster. Et l'ancien ministre de la Justice, David Lidington, a remplacé Damien Green. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Brandon Lewis, qui est aussi nommé président du Parti conservateur et secrétaire d'État sans portefeuille. mais la plupart des ministres, la plupart des poids lourds ont gardé leur place.
Quelle réaction de Jeremy Corbyn, Alexander? Il est le chef du Parti travailliste. On peut le considérer comme le premier parti d'opposition en Grande-Bretagne aujourd'hui?
D'abord, Jeremy Corbyn, il a dit que le grand plan du gouvernement pour la nouvelle année est d'esquiver les vrais problèmes et de remanier ce gouvernement dans un exercice de relations publiques sans intérêt et sans éclat, on peut dire. Il a dit ça. Et en cas de nouvelles élections, Jeremy Corbyn pourrait très très bien être le futur Premier ministre, mais en ce qui concerne le Brexit, la position du Labour Party et de Jeremy Corbyn n'a pas été un vrai parti d'opposition.
Et alors les journaux, on pense par exemple au Guardian, qui est un journal social-démocrate. Comment réagissent les journaux à ce remaniement? Ils l'acceptent?
Ils ne l'acceptent pas vraiment parce que c'était un remaniement avec peu de changements. Donc, quasiment tous les journaux avaient comme titre c'était un remaniement de chaos, en fait, avec toutes ces gaffes qui ont eu lieu sur Twitter.
Ouais, alors ce qui est assez incroyable, c'est que on voit bien que si Theresa May est contrainte à faire ce remaniement, c'est aussi parce que elle est affaiblie par diverses affaires. Et si en France les affaires reposent sur des problèmes d'ego et d'argent, les affaires chez vous, Alexander, en Grande-Bretagne, sont bien différentes. Les ministres sont donc contraints de démissionner après avoir été accusés d'attouchement. Et des milliers de sites pornographiques ont été consultés par un député. Comment peut réagir un opinion publique? Comment le Britannique moyen, qui ne vit pas forcément à Londres hein, d'ailleurs, va réagir à ce genre d'informations en Grande-Bretagne?
Ah oui, il y a certains Britanniques qui ne veulent pas voter conservateur aux prochaines élections. J'ai vu sur les réseaux sociaux... Ils veulent maintenant voter peut-être pour le Labour Party ou pour les libéraux-démocrates. Tout le monde prenne leur distance à propos des conservateurs. Et ils aussi critiquent le conservateur à propos de la crise à la NHS, par exemple, qui est une crise maintenant qui est sans précédent.
La première ministre britannique Theresa May a également annoncé dimanche, et alors là, toute autre chose pour le coup, qu'elle abandonnait l'idée de soumettre au vote du Parlement une révision de l'interdiction de la chasse à courre aux renards. Une décision, on l'imagine, Alexander, saluée par les défenseurs de la cause animale.
Oui, exactement. Donc, contrairement à l'une de ses promesses de campagne, la première ministre Theresa May ne soumettrait pas au Parlement le vote d'une révision de l'interdiction de la chasse aux courres, parce qu'elle a dit à la BBC dimanche, sur la question de la chasse aux renards, il n'y aura pas de vote sous ce Parlement. Mon opinion sur la question n'a pas changé, mais en tant que Premier ministre, ma responsabilité ne dépend pas seulement de ce que je pense, mais de ce que pense l'ensemble du pays. Et donc, je crois que c'est un message qu'elle veut... parce qu'elle se sentait critiquée ces derniers temps, donc maintenant elle veut reprendre un peu l'autorité, en fait.
Oui, c'est intéressant, elle cherche finalement à redorer son image hein, lorsque je ne fais pas ça dans mon intérêt, mais vraiment pour l'intérêt du pays, c'est assez intéressant.
Oui, et aussi parce que Theresa May avait pris l'engagement lors de la campagne de juin 2017 de revenir sur l'interdiction de la chasse à courre. Elle a été introduite en 2004 par une loi portée par le Parti travailliste. Donc peut-être c'est à mon avis, c'est une décision peut-être pour un jeu de ping-pong entre le Parti travailliste et les partis conservateurs.
Peut-être, très probablement, effectivement. Et puis enfin, pour terminer, parce que évidemment à chaque fois on est obligé de se poser cette question, Alexander, sur le Brexit. Après avoir terminé de négocier cette phase 1, donc entre le 29 mars 2017 et décembre 2017, qui s'est soldée par un accord préliminaire incomplet, on a notamment résolu partiellement le problème des frontières du côté de l'Irlande entre le nord et le Sud. On entre désormais dans la phase 2, la phase 2 sur 3, hein, si je ne me trompe pas, et la détermination d'un futur partenariat.
Oui, donc d'abord, la phase 1 a été très compliquée et laborieuse, et la phase 2 sera encore plus compliquée.
Eh bien, ça nous
promet. Parce que le nouvel exécutif, les mêmes têtes, devraient définir rapidement sa position en vue des négociations avec Bruxelles sur le Brexit, qui doivent reprendre en janvier. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron va venir à Londres bientôt pour parler avec Theresa May. Et donc, il y aura une tête-à-tête avec eux, entre les deux chefs d'État. Et donc ils doivent parler de cette... le nouvel exécutif doit parler sur la période de transition. Et en mars, à propos de la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui pose déjà beaucoup de problèmes. Et donc, pour ce faire, je crois que Theresa May a voulu maintenir en poste Boris Johnson, Philip Hammond et David Davis. Mais ils sont très critiqués, ces ministres-là, parce que David Davis, il a expliqué au Parlement récemment qu'il n'a pas... Il n'avait pas pris sérieusement la question sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ouais. Effectivement, donc on aura l'occasion, hein, tout au long de cette année 2018 de suivre une nouvelle fois ces négociations sur le Brexit. Vous nous les a fait vivre semaine par semaine, Alexander Seal, que l'on retrouvera la semaine prochaine, hein, bien évidemment.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
À suivre sur C'est l'Info, on va parler du CES, Consumer Electronics Show. C'était à Las Vegas toute cette semaine et Stanislas Mirocha nous dévoilera les grands enjeux de ce salon grand public spécialisé donc dans les nouvelles technologies. À tout de suite. IT News, à présent dans C'est l'Info, nous sommes avec Stanislas Mirocha. Bonjour Stanislas.
Salut Martin.
Bon, est-ce que tu vas bien?
Ça va, bonne année.
Oui, bonne année, hein, depuis le temps, effectivement, on s'était eu pour l'émission il y a 15 jours sur cette belle rétrospective. Alors, cette fois-ci, Stanislas, on va parler du CES, le Consumer Electronics Show, qui est tout simplement le plus grand salon consacré à l'innovation technologique et électronique grand public. Ce salon, il se tient à Las Vegas depuis 1967. Alors cette année, Las Vegas a été perturbé, notamment à cause de nombreuses inondations. Et puis, lors de la journée du jeudi, pendant plus de 2 heures, le hall central a été privé d'électricité. C'est un comble quand même pour un salon de l'électronique. Et Stanislas, on va avec toi voir les grandes innovations de cette année. On commence par une navette autonome, elle est française et elle est en provenance de chez Navia.
Absolument, la marque Navia française qui nous propose en fait et qui expose son véhicule autonome Shuttle. Alors en fait, c'est un véhicule qui permet de remplacer le bus traditionnel et c'est une navette finalement qui n'a pas de chauffeur, qui est 100% électrique, 100% autonome et qui donc n'a pas de conducteur. Donc en fait, c'est une petite navette de 5 mètres de long qui peut transporter jusqu'à 15 personnes. Voilà, elle voyage à peu près à 25 km/h de vitesse moyenne. Donc quand on embarque à bord de la navette, on peut s'informer et poser des questions à la navette, tout simplement grâce à un écran tactile qui est présent à l'intérieur de l'habitacle. Il y a aussi une caméra de surveillance 360 degrés pour voir ce qui se passe justement dans l'habitacle. Évidemment, pour des raisons de sécurité, l'Autonome Shuttle possède 2 boutons d'arrêt d'urgence et un interphone d'urgence pour prévenir le secours si jamais il y avait besoin. Donc cette navette Autonome Shuttle est déjà testée à Lyon et est présente dans plusieurs pays dans le monde. Elle effectue des trajets, par exemple, entre les différents terminaux d'aéroports, les différents secteurs d'hôpitaux, dans les parcs publics ou encore dans les campus universitaires. Et elle est présente en France, à Lyon Confluence et à Paris, dans le quartier de la Défense.
Oui, c'est assez impressionnant, Stanislas. Il y avait de la concurrence également avec, là aussi, un taxi autonome. Alors, ce n'était pas une navette, c'était un taxi. Et ça vient de chez Lyft.
Oui, alors il faut savoir aussi que Navia, en plus du shuttle, a sa version cab, donc taxi qui est présent aussi en exposition au CES. Et donc, à sa concurrence directe, il y a Lyft, la société de taxi autonome qui a déployé notamment sa flotte en démonstration pour les visiteurs du salon CES avec une flotte de 8 BMW série 5 qui sont équipés de la technologie de conduite autonome. Voilà. Et donc, ces navettes transportaient les visiteurs jusqu'au salon. Et Lyft a notamment expérimenté ses taxis autonomes dans la ville de Boston aux États-Unis, avec quand même des chauffeurs qui restent dans le taxi pour des raisons de sécurité parce que c'est pas encore très très au point.
Ouais, Lyft qui est aux États-Unis l'équivalent de la société Uber, mais qui pratique tout de même, hein, par rapport à Uber, des prix entre 5 et 10% moins chers. Et est-ce que l'on sait quand est-ce que ces navettes Lyft, enfin ces véhicules Lyft, arriveront pour tous, pour le grand public, Stanislas?
On espère dès l'année prochaine, partout
Ah
dans le
oui.
monde, en tout cas.
Donc les
C'est ce qui est
choses.
prévu.
Les choses avancent vite. Les choses avancent vite également du côté de la domotique. Un essor de la domotique, hein.
Absolument. Donc en fait, cette édition de CES est très 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 axée sur la domotique, notamment sur la maison intelligente et connectée, ce qu'on appelle aussi la maison automatique. Donc c'est vraiment le cœur du salon cette année. Donc on peut évidemment noter dans les innovations les assistants vocaux intelligents. On pense notamment à Google Home ou son concurrent de chez Amazon, qui ont été un grand succès cette année pour les achats de Noël notamment. Ça fait partie des grandes innovations aussi présentes au salon. On a aussi par exemple un robot qui s'appelle le robot Buddy. En fait, c'est un assistant domestique qui se balade dans votre maison, qui peut reconnaître les visages de la famille, qui peut tenir une conversation avec vous, qui surveille la maison aussi quand vous n'êtes pas là et qui peut même lire des histoires à vos enfants. En fait, ce robot, l'entreprise veut encore l'améliorer en ajoutant en fait plusieurs applications pour le robot pour qu'il soit vraiment le plus complet possible et vraiment au service de la famille. Le robot était présent au salon, il est en rupture de stock et le robot vaut 1299 euros à peu près. Donc gros succès pour ce robot assistant domestique.
Oui, alors également autre chose, hein, Stanislas, c'est un radiateur électrique et intelligent. Comment ça marche?
Oui, le radiateur de la marque Lancet, c'est un radiateur électrique qui est intelligent, économique et écologique. En fait, le radiateur est doté d'une batterie qui se charge pendant les heures creuses du réseau, qui permet donc d'économiser donc de l'énergie et de l'argent, et qui se décharge en fait aux heures de pointe pour réchauffer la maison. Et il y a aussi la possibilité pour ceux qui possèdent le radiateur d'avoir une application pour suivre l'évolution de sa consommation et aussi de gérer évidemment la température à distance via son smartphone.
Oui, Sony a également présenté son robot chien.
Oui, Aibo de son prénom, c'est en fait un modèle qui est ressuscité. En fait, Sony l'avait arrêté en 2006. Et donc en 2018, nouvelle version, le robot chien est donc doté d'une intelligence artificielle, de capteurs. Il est aussi doté d'une connexion Internet, donc il peut échanger des informations avec ses congénères, ses autres robots chiens. Du coup, comme ça, il peut devenir plus intelligent. Ce robot est disponible au prix de 1500 euros et est disponible seulement au Japon pour le moment.
Vous avez également vu, ou en tout cas lu, Stanislas, d'autres innovations, à commencer par une innovation qui facilitera la vie à vélo.
Absolument, beaucoup beaucoup de gens maintenant se déplacent de plus en plus en vélo, notamment grâce au vélo en libre service et à l'essor des pistes cyclables. Et donc, il y a un guidon connecté qui est présenté au salon qui s'appelle le Wink Bar. Donc, ce guidon connecté est équipé de lumière pour bien éclairer la nuit. Et c'est surtout son plus grand avantage, c'est que le cycliste peut être guidé sans regarder son smartphone, en fait, suivre un itinéraire sans regarder son smartphone grâce à un code lumineux qui indique de quel côté tourner sur le guidon. Et il est aussi doté d'un système de géolocalisation pour retrouver son vélo si jamais on vous l'a volé.
Des évolutions également en ce qui concerne le réseau après la 4G, voilà la 5G.
Oui, évolution logique des choses, la 5G avec son débit qui dépasserait les 10 gigabits par seconde. Cette 5G sera donc expérimentée aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Et d'ailleurs, cette 5G, c'est un réseau nécessaire pour le bon fonctionnement d'à peu près 90% des nouvelles technologies présentes au salon. Donc voilà, 5G qui serait obligatoire si on veut utiliser les appareils du futur. À savoir que les premiers smartphones 5G sont prévus pour 2019. À savoir que les premiers smartphones 5G seraient prévus pour 2019 en France.
Oui, et puis alors Stanislas, au CES, on a toujours l'habitude de voir de nouvelles télévisions. Et chez les constructeurs Samsung, LG, Panasonic, le but, c'est toujours d'avoir la plus grosse.
Absolument. Et puis après, que la TV 4K se développe peu à peu, petit à petit, dans les ménages, et ben la TV 8K est déjà arrivée au salon, en tout cas, avec un affichage de 33 millions de pixels, une technologie micro-LED qui offre un meilleur contraste, une meilleure luminosité et une meilleure efficacité énergétique que la technologie OLED. Voilà, au salon, Samsung et LG ont présenté leurs modèles respectifs.
Eh bien voilà, merci beaucoup hein, Stanislas de nous avoir résumé un petit peu ce salon des nouvelles technologies. Un petit chiffre, 275, c'est le nombre d'entreprises françaises implantées au CES, 289 entreprises américaines. Et pour donner un ordre d'idée, il n'y a que 46 startups coréennes, issues de Corée du Sud, qui sont au CES. Ça prouve oui. Effectivement que les Français sont là.
On peut être très fiers de notre French Touch.
Oui, tout à fait. Hein. Cette nouvelle French Touch, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui déclarait d'ailleurs qu'il est venu dire qu'il y a en France les meilleures technologies. Est-ce qu'on peut le croire, ça? On aura l'occasion d'en reparler dans les futures émissions. Le prochain grand salon cette année, c'est pour quand?
Ce sera à Barcelone dans les mois à venir, ouais. avec le Mobile World Congress.
Voilà, en tout cas, ça promet, on aura l'occasion d'en reparler dans IT News. Merci beaucoup Stanislas et à très vite. Le duplex, une nouvelle fois, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, avec Franck Payana. Bonjour Franck.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Alors après la plage mouvementée hein, tout de même la semaine dernière du côté de Biarritz, vous êtes à la Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques.
Exactement, on est à Agourette, une station des Pyrénées-Atlantiques, si ce n'est la station peut-être la plus connue du département, avec quand même 125 hectares de domaine skiable et de nombreux skieurs qui font le déplacement tous les jours depuis l'ouverture des pistes au mois de novembre. Les conditions météo aujourd'hui en tout cas, elles sont extrêmement bonnes et on va en parler dans quelques secondes.
Oui, alors quel est l'état de la neige, Franck?
Ben alors on peut peut-être déjà parler de la météo, il fait extrêmement beau. Là, par contre, le vent commence à souffler, donc on sent un peu le froid. Mais en tout cas, voilà, le soleil est là, et ce qui fait que de nombreux skieurs sont présents. Et du côté de la neige, eh ben écoutez Martin, alors c'est de la triche un peu parce que je suis juste au bord de la piste de ski. Elle est assez dure, mais si je me déplace un tout petit peu, je m'enfonce déjà dans la neige et on a de la neige extrêmement molle. Donc voilà, de la neige fraîche et de la neige froide. J'ai envie de vous dire, c'est logique et c'est l'hiver.
Ouais, bah c'est intéressant. Ski, vous avez fait un peu de ski, Franck, justement?
Alors on a malheureusement pas eu le temps pour le moment de faire du ski. On va peut-être vous réservez une petite surprise pour la fin de ce duplex, mais en tout cas, on n'a pas chaussé les skis ce matin. Contrairement aux écoles de ski qui sont très nombreuses ici, il y en a notamment deux juste ici dans la station de Gourette, plus tous ceux qui viennent de Pau, etc., etc. Pour le plaisir des petits et comme des grands.
Et oui, puisque nous sommes mercredi, hein, à l'heure où nous enregistrons ce duplex, mercredi, il est pratiquement 15h. Quelle est justement la fréquentation passée la mi-journée?
Bah écoutez, alors la fréquentation elle est mitigée, j'ai envie de vous dire. Il y a du monde déjà, c'est sûr. Il y a surtout beaucoup de jeunes, c'est mercredi, c'est ce que vous disiez, c'est les sorties scolaires. Mais la fréquentation est redescendue. Pourquoi? C'est simple, c'est la fin des vacances scolaires depuis dimanche soir. En effet, les écoliers, les collégiens, les lycéens ont repris les chemins de l'école ce lundi. Et donc du coup, la fréquentation est en baisse, même s'il y a encore des familles qui sont présentes ici à Gourette cette semaine.
Oui, et cela dit, on se doute, Franck, que la période des fêtes, en particulier Noël et le jour de l'an, a dû être mouvementée.
Oui, enfin, en tout cas, elle a été mouvementée. Elle a en tout cas reçu beaucoup de monde. Le bilan est très très bon. On en a parlé avec la directrice de l'office de tourisme de Gourette-Aubonne, Florence Lapaquette. Je vous propose de l'écouter dans cet entretien réalisé quelques heures avant notre duplex.
Eh bien, déjà, de belles fêtes de Noël, parce qu'effectivement, ça faisait deux hivers qu'on n'avait pas eu de neige en période de Noël et on était obligé de développer d'autres activités que les activités ski. Donc, les personnes qui viennent en séjour chez nous sont quand même là pour skier. Donc là, effectivement, ils sont très, très contents d'avoir pu avoir de la neige à Noël, de skier dans de bonnes conditions. On a eu vraiment, des gens ravis de pouvoir enfin skier à nouveau en hiver, en vacances d'hiver à Noël sur la station de Gouette.
Malheureusement, pendant quelques jours, vous avez dû fermer les pistes en raison des tempêtes qui ont touché le sud de la France et vous avez mis en place des activités pour occuper les vacanciers. C'est le cas également le reste du temps, les pistes sont ouvertes aujourd'hui. Quelles sont les activités à découvrir, surtout ici, sur ce domaine?
Alors, sur le domaine skiable, il y a énormément d'activités liées à la neige, hein, que ce soit d'ailleurs sur le domaine skiable ou autour du domaine skiable, que ce soit la classique raquette à neige, mais il y a aussi du chien de traîneau, il y a aussi du bain nordique. On va pouvoir faire de la luge, du snake glisse, du ski de randonnée, du ski nordique. Voilà, une palette très très large autour des activités autour de la neige, mais aussi des activités hors du domaine skiable qui sont des activités de découverte de la faune. Ça va être aussi des activités ludiques autres. Hein. On a plein de petites choses. On a de la tyrolienne à faire. On a la possibilité également de faire de l'escalade sur un mur d'escalade intérieur. Voilà, il y a plein de choses à faire hors activité ski. On peut aussi skier le matin, faire des activités l'après-midi. Voilà, il y a plein de possibilités. Le cinéma, des documentaires, des rencontres, des bals, des festivités. Il y a énormément d'autres choses à faire aussi au-delà de l'activité ski qui reste l'activité principale dans la station.
Voilà, Franck qui était avec Florence Lapaquette pour parler de la fréquentation en hiver. Y a-t-il également des activités d'été à Gourette?
Oui, alors il y en a, c'est une station d'hiver mais également d'été, c'est le mot-clé de l'office de tourisme. Il y a donc deux saisons avec des animations différentes. L'hiver, c'est les raquettes, l'été, c'est la randonnée, mais il n'y a pas que ça. Il y a également du canyoning, de l'escalade, également du thermalisme avec la ville des Aubonnes juste à côté, également du vélo électrique, du VTT et tout plein d'animations encore qui se font l'été ici à Gourette.
Oui, alors si vous regardez ce duplex hein, depuis C'est l'info, c'est-l'info.fr ou sur YouTube, vous constaterez peut-être que Franck a changé d'emplacement. Vous avez sûrement une surprise à nous réserver là, Franck, non?
Oui, alors Martin, effectivement, parce que regardez, si je vous sors ça, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est une luge.
Très bien joué, effectivement, on est descendu un petit peu de notre montagne, là où on était. Je vais juste m'équiper de mon casque rapidement. On remerciera l'office de tourisme de Gourette qui nous permet de faire ce petit kiff. La semaine dernière, on était les pieds dans l'eau. Cette semaine, on va faire du ski, de la luge.
Et bien voilà, et je le rappelle, hein, YouTube, c'est-l'info.fr pour voir ce duplex avec Franck le baroudeur donc, qui va dévaler cette piste avec ce beau casque qu'il est en train d'enfiler.
Voilà, c'est bon. C'est bon, bon
enfilé,
du coup j'y vais. Alors attention.
Attendez, voilà, vous êtes magnifique, Franck.
Merci Martin, vous êtes gentil.
J'espère que ça va vous aider pour descendre cette piste.
Ouais, mais j'espère parce que la dernière fois qu'on l'a essayé, on s'est quand même cassé la figure.
Allez, on y croit.
On va y arriver à démarrer. On dirait une vieille voiture. C'est bon, ça y est. Ça avance. Voilà. Je me retiens à ne pas tomber. J'ai pas trois. Voilà, bon. Bon, Martin, j'ai envie de te dire, défi réussi. On a réussi à faire une descente en luge.
Eh bien, Franck, je propose que l'on termine cette émission de C'est l'info avec vous, justement, depuis Gourette, parce que, voilà, ça vaut le coup. Merci une nouvelle fois de vous être déplacé jusqu'à Gourette, Franck. Et on vous retrouvera dans les prochaines semaines, je ne sais pas où. En tout cas, d'ici là, voilà, vous retrouvez le meilleur de l'actu sur c-l'info.fr. Et Franck, on n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine, Martin, à la semaine prochaine à tous.
Le duplex.